de la période de la guerre froide. L'international socialiste a toujours considéré que l'Amérique latine appartenait aux États-Unis, c'était l'arrière-cour, on n'y touchait pas. Et puis il y a eu, cela étant, peut-être une période bénie, qui est partie d'un drame, qui est le renversement de Salvador Allende au Chili en 1973, où là, d'un seul coup, il y a une espèce de solidarité émotionnelle. En fait, pour les socialistes européens, c'est un peu comme la guerre d'Espagne. Et donc, les socialistes vont s'intéresser à l'Amérique latine. Et puis, en particulier, il va y avoir la période des dictatures en Amérique latine. Et là, on va avoir toute une génération de dirigeants sociodémocrates européens, Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterrand, Bruno Kreisky en Autriche, Mario Suarez, Felipe González, qui vont prendre leur distance avec les États-Unis, et y compris qui vont se rapprocher d'un certain nombre de partis politiques en Amérique latine. Et ça va donner lieu, en 1980, à la création de ce qu'on appelle le CICLAC, c'est la conférence régionale de l'international socialiste. Et les Européens, y compris, vont se mouiller, puisque vous vous souvenez comme moi qu'en 81, le gouvernement français, François Mitterrand, reconnaît l'opposition salvadorienne, en particulier la guérilla salvadorienne, ce qui crée une grosse différence avec, évidemment, avec Reagan, hein, la politique américaine. Alors c'est pas tellement d'ailleurs à quelle époque les socialistes étaient révolutionnaires, c'était surtout pour éviter que cette partie du monde tombe entre les mains des communistes. Donc on prenait plutôt la négociation que le règlement militaire des conflits armés. En même temps, quand on regarde bien, dès cette époque, il y avait des clivages au sein de l'international socialiste, en particulier au sein des partis latinos qui ont rejoint l'international socialiste. Vous aviez par exemple le Parti Action démocratique au Venezuela, le Parti de la Libération nationale au Costa Rica, le PRD en République dominicaine, qui était beaucoup plus à droite que l'international socialiste. En fait, ils s'étaient rapprochés des socialistes européens. D'abord parce qu'ils étaient en lutte contre les dictatures pour un certain nombre de pays, et parce qu'ils espéraient qu'avec ces amis européens qui allaient arriver au pouvoir ou qui étaient déjà au pouvoir, ils allaient pouvoir en fait bénéficier d'une solidarité, y compris économique. Et puis en même temps, les partis socialistes européens vont, on va dire, quitter le terrain de la gauche pour se rapprocher plutôt du terrain du centre. Le phénomène qui va se passer, c'est que les partis affiliés à l'international en Amérique latine vont tous un jour ou l'autre arriver au gouvernement. Et ils vont gouverner à la manière néolibérale. De sorte qu'ils vont complètement se disqualifier et que vont arriver, dans les années, fin des années 90, un certain nombre de nouveaux leaders. Alors, pas besoin de les citer, enfin si, je vais les citer quand même. Hugo Chavez, Rafael Correa en Équateur, Evo Morales, Lula au Brésil. Avec un phénomène évidemment très intéressant, c'est qu'ils déplacent les partis latino-américains liés à l'international socialiste. Et de ce fait, ils deviennent les adversaires de ces partis. Et évidemment, la logique, elle est claire, c'est que les copains de mes copains sont mes copains, et les ennemis de mes copains sont mes ennemis. Alors, ça donne quoi? Je vais prendre un exemple très concret. Le Venezuela. Venezuela, le parti principal qui est lié à l'international socialiste, c'est Action démocratique. Président Carlos Andrés Pérez. Janvier 89, Carlos Andrés Pérez est élu à la présidence. Felipe González fait un discours formidable à Caracas en disant « Si les mesures que va prendre ce gouvernement sont les mesures qui vont suivre, ce pays a un avenir formidable. » Sauf que trois mois après, Carlos Andrés Pérez s'aligne sur le Fonds monétaire international, impose des mesures absolument terribles à la population, qu'il y a une révolte populaire et que ça fait 3000 morts. Et l'international socialiste se tait. Lorsque Carlos Andrés Pérez va être destitué pour corruption en 1993, l'international socialiste lui envoie un message d'amitié, hein, de compréhension et d'amitié. Évidemment, dans ces conditions, il n'est pas difficile de comprendre que le lieutenant-colonel Hugo Chavez, qui entre qu'en 92 a tenté un coup d'État contre cette démocratie injuste et corrompue, comme il le dit, va devenir l'ennemi des socialistes européens. Et c'est cette logique qu'on va retrouver tout au long des années 2000, et 2010, 2011, 2012 maintenant. C'est-à-dire que tous ces nouveaux leaders latino-américains qui sont arrivés au pouvoir sont des gens qui ne sont pas considérés comme légitimes par la grande famille socialiste. Bon. Alors il n'y en a qu'un qui a été courtisé, qui est courtisé par les socialistes européens, c'est Lula. Bon. Et donc on a un décalage total. Et quand on pose le problème ici, vu de France, à l'intérieur du Parti socialiste, parce que tous les socialistes français ne sont pas indifférents à ce qui se passe en Amérique latine, on vous explique que finalement, la compréhension des membres du Parti socialiste français, je parle de la hiérarchie, hein, des dirigeants, c'est du niveau, je cite, c'est pas moi qui le dis, le monde ou libération. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y connaît strictement rien. Ceux qui vont là-bas...
Parce que dans le monde et dans Libération, on n'y connaît rien.
Ça, moi, c'est nos comment, mais simplement...
Non, bien sûr, aucun commentaire de la part de